Bonjour à tous et bienvenue sur Rare à l'écoute, la chaîne de podcast dédiée aux maladies rares. Aujourd'hui, nous continuons d'explorer l'hypoparathyroïdie et pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir le professeur Marie Courbebès. Professeur Courbebès, bonjour.
Bonjour.
Professeur Courbebès, vous êtes néphrologue au sein du service de physiologie, exploration fonctionnelle métabolique et rénale de l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Et vous êtes également clinicienne du centre de référence constitutif des maladies rares du métabolisme du calcium et du phosphate sous l'égide de la filière Oscar. Alors aujourd'hui, professeur Courbebès, nous abordons le diagnostic de l'hypoparathyroïdie. Et pour débuter notre entretien, quand faut-il penser à une hypoparathyroïdie ?
Eh bien, bien sûr, devant la découverte fortuite d'une hypocalcémie lors d'un bilan biologique, et puis devant une symptomatologie clinique d'hypocalcémie, mais également devant des signes de complication d'une hypocalcémie, par exemple devant une cataracte congénitale ou survenant chez un enfant, un adolescent ou un adulte jeune, devant des anomalies de formation de l'émail dentaire et une susceptibilité accrue à la carie dentaire, devant toute calcification des tissus mous, que ce soit le cerveau ou le rein, eh bien, on doit également doser la calcémie à jeun. Je vous rappelle que le syndrome de Farr est caractérisé par des calcifications cérébrales, principalement au niveau des noyaux gris centraux. Et puis, parmi les signes de complication d'une hypocalcémie, on peut aussi avoir la découverte fortuite de zones d'ostéocondensation sur des radiologies donc osseuses ou une augmentation de la densité minérale osseuse sur une ostéodensitométrie. En ce qui concerne les différents âges de la vie, je vous rappelle que toute hypocalcémie chez le nouveau-né, qu'elle soit de révélation clinique ou diagnostiquée au cours d'un examen biologique systématique, doit, de principe, faire évoquer le diagnostic d'hypoparathyroïdie congénitale. Et dans ce cas, on va le revoir, l'exploration de la maman permettra de différencier une hypoparathyroïdie congénitale d'une hypoparathyroïdie fonctionnelle due à une hypercalcémie chez la maman. Un peu plus tard, chez l'enfant, une hypocalcémie doit être recherchée devant une crise convulsive inaugurale, y compris une crise convulsive hyperthermique atypique. Et puis, il est également indispensable de doser la calcémie devant un syndrome épileptique récidivant, si cela n'a jamais été fait. Et puis enfin, plus tard, à l'âge adulte, le contexte peut être très évocateur, notamment en post-chirurgie de la région cervicale ou après radiothérapie cervicale.
Alors justement, quelles sont les étiologies possibles d'une hypoparathyroïdie ?
Alors, il y a deux grands types d'étiologies, les hypoparathyroïdies acquises et les hypoparathyroïdies congénitales. Alors, dans le groupe des hypoparathyroïdies acquises, qui concernent plus fréquemment l'adulte, hein, bien évidemment, on a de façon très fréquente les hypoparathyroïdies post-chirurgicales. Chez l'adulte, c'est de loin la cause la plus fréquente d'hypoparathyroïdie et elle peut survenir après toute chirurgie du cou, mais plus préférentiellement après une parathyroïdectomie ou après une chirurgie thyroïdienne qui vont entraîner dans 3 à 4% des cas une hypoparathyroïdie définitive. Dans les autres causes acquises, on a les radiothérapies de la zone cervicale, les infiltrations des glandes parathyroïdes, par exemple lors d'une hémochromatose ou d'une amylose, les causes auto-immunes avec des anticorps dirigés contre les cellules parathyroïdiennes, et puis enfin les hypoparathyroïdies transitoires fonctionnelles, donc réversibles par définition. Deuxième grand groupe nosologique d'hypoparathyroïdies, eh bien, ce sont les hypoparathyroïdies congénitales. Et on peut les subdiviser, ces hypoparathyroïdies congénitales, en deux sous-groupes. Celles qui sont dues à une atteinte de l'embryogénèse des glandes parathyroïdes. Alors, dans les défauts d'embryogénèse, on a le cas le plus fréquent, qui est le syndrome de DiGeorge, ou syndrome vélo-cardio-facial, dû à une délétion 22Q11. Et c'est à ce jour donc la plus fréquente des anomalies embryologiques des glandes parathyroïdes, et ça concerne 1 sur 4000 nouveau-nés. On a également le syndrome AP7. Il s'agit d'une pathologie auto-immune rare, mais elle s'intègre néanmoins dans une forme familiale de transmission récessive autosomique due à une mutation du gène RAIRE et qui débute souvent dans la petite enfance. On a également des mutations de GCMB qui codent pour un facteur de transcription impliqué dans l'embryogénèse des parathyroïdes et puis des syndromes très rares comme le syndrome HDR. Et puis on a également, comme je vous le disais, des défauts de production ou de sécrétion de PTH qui peuvent expliquer les hypoparathyroïdies congénitales. On a aussi des mutations du gène codon pour la PTH. Et puis, certaines maladies mitochondriales peuvent également entraîner un défaut de production ou de sécrétion de PTH. Alors, bien évidemment, pour distinguer ces différents cadres étiologiques d'hypoparathyroïdie, l'âge et les circonstances de survenue, donc l'anamnèse, vont vous aider énormément. Et puis, n'oubliez pas l'historique des mesures de calcémie antérieure qui vont être utiles, car bien évidemment, si une personne a une hypocalcémie alors que antérieurement on avait des calcémies strictement normales, eh bien, cela oriente bien évidemment vers une cause acquise. Parmi les causes acquises, une potentielle cause fonctionnelle, donc réversible.
Et concrètement, professeur Courbebès, comment effectuer le diagnostic d'hypoparathyroïdie?
Alors, le diagnostic est simple. Le diagnostic d'hypoparathyroïdie est biologique. Il repose sur l'association d'une hypocalcémie. Alors, dans l'idéal, il est souhaitable, pour vraiment être certain qu'il s'agisse d'une vraie hypercalcémie, d'avoir accès à la calcémie ionisée. Et puis, concomitamment à ce dosage de calcémie, on a une concentration circulante de PTH basse ou anormalement normale, donc inadaptée à cette hypocalcémie. La phosphatémie élevée est un élément fort dont la suspicion diagnostique, mais n'est pas systématiquement retrouvée. Et il est important également d'interpréter la calcémie en regard de la calciurie. Et en l'absence de traitement de l'hypoparathyroïdie, la calciurie à jeun est basse. Chez l'enfant, on peut bien évidemment raisonner sur la calciurie non à jeun. Et elle est basse, cette calciurie adaptée à l'hypocalcémie. Attention toutefois, car la calciurie peut être conservée dans certains cas et orientée alors vers des mutations activatrices du récepteur sensible au calcium ou des protéines de sa voie de signalisation, comme on en a parlé avant. La mesure de la magnésémie dans la démarche diagnostique est également importante, puisque les hypomagnésémies, notamment, peuvent être responsables d'une hypoparathyroïdie fonctionnelle. Et bien évidemment, il va falloir également doser la 25-OH vitamine D, dont le déficit et a fortiori la carence vont aggraver les signes de l'hypoparathyroïdie.
Et quels sont les diagnostics différentiels à écarter?
Alors, le principal diagnostic différentiel à écarter est celui de la pseudo-hypoparathyroïdie, qui est souvent syndromique. Alors, qu'est-ce qu'une pseudo-hypoparathyroïdie? Alors, c'est un tableau qui associe une calcémie basse mais une PTH élevée. Pourquoi? Parce que dans ce cas, on a une résistance à l'action de l'hormone parathyroïdienne. C'est un diagnostic qui est donc le principal diagnostic différentiel. Et les pseudo-hypoparathyroïdies sont, dans la majorité des cas, dues à une mutation de GNAS, une protéine qui permet la transmission de l'effet de la PTH à l'intérieur de la cellule. À noter que les pseudo-hypoparathyroïdies peuvent aussi rarement être acquises dues à la présence d'auto-anticorps contre le récepteur à la parathormone. Alors, il y a un deuxième type de diagnostic différentiel qui est la calcémie limite inférieure associée à une augmentation réactionnelle appropriée de l'hormone parathyroïdienne dans le cadre des hyperparathyroïdies d'origine secondaire, notamment due à un déficit en vitamine D, à des apports calciques insuffisants ou à une maladie rénale chronique ou éventuellement à un traitement par bisphosphonate. Mais dans ce cas, en théorie, on n'a pas d'hypocalcémie. On a une calcémie qui se maintient dans les limites de la normale.
Et pour conclure, professeur Courbebès, en cas de suspicion, à qui adresser ces patients?
Alors, le diagnostic d'hypoparathyroïdie et la recherche étiologique, comme vous avez compris, à part dans des cas évidents de post-chirurgie cervicale, peut s'avérer complexe. Même si la cause est évidente, la prise en charge des patients peut également être difficile, car comme vous le savez, le traitement repose en première intention sur des apports calciques et sur la prescription de dérivés actifs de la vitamine D, avec une iatrogénie qui n'est pas négligeable, et notamment un risque de lithiase et de néphrocalcinose. Donc le plus raisonnable est de faire appel aux filières de santé maladies rares et de s'adresser à des centres de référence experts en cas de suspicion.
Eh bien, merci mille fois, professeur Courbebès, de nous avoir fait mieux connaître cette maladie rare qu'est l'hypoparathyroïdie. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller plus loin dans la connaissance de cette pathologie, nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet www.rarealecoute.com où de nombreuses informations sont à votre disposition. Nous vous remercions pour votre fidélité et nous vous donnons rendez-vous sur la chaîne Rare à l'écoute pour un prochain numéro sur cette maladie rare. À très vite.